l'écoute des programmes de Studio Kalangou. Il est 17h, le journal de ce vendredi 22 avril 2022. C'est avec Nafissa Adam Sirfo. Au sommaire, sur le million de fidèles musulmans autorisés à effectuer les rites du Hajj 2022 à la Mecque, le Niger a obtenu un quota de 7194 pèlerins. L'annonce a été faite ce matin à Niamey par le commissaire pour l'organisation du Hajj et de la Umra Koho. À l'occasion de la célébration ce jour de la Journée mondiale de la Terre, l'Association des jeunes volontaires pour l'environnement a lancé un concours des meilleurs gestes écologiques sur Internet, des précisions avec le président de l'association. Le magazine de cette édition parlera du mariage interethnique au Niger comme facteur de cohésion sociale. Bonsoir à tous et bienvenue. Le commissariat pour l'organisation du Hajj de la Umra Koho a animé ce matin un point de presse à son siège à Niamey. Le commissaire au Hajj a indiqué qu'un million de fidèles sont autorisés à faire le rite du Hajj 2022 et le quota du Niger est de 7194 pèlerins. Pour les agences qui sont impactées par la crise de Covid-19, elles bénéficient d'une prolongation de 2 ans d'exercice gratuitement et à titre exceptionnel, indique le commissaire Ibrahim Kegama.
Le commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umra a l'honneur d'informer la Umma islamique du Niger et les autorités saoudiennes en charge du Hajj et de la Umra autorisent 1 million de fidèles musulmans de par le monde à effectuer le Hajj 2022 et ont octroyé un quota de 7194 pèlerins au Niger. L'édition du Hajj 2022 que nous entamons, les autorités saoudiennes ont déjà annoncé des mesures sanitaires à respecter. Il s'agit notamment de la limitation de l'âge des candidats au Hajj à moins de 105 ans, la vaccination contre le Covid-19, le test PCR négatif de validité de moins de 72 heures, la cour accordée gratuitement et à titre exceptionnel, une prolongation de 2 ans d'autorisation d'exercice aux agences de pèlerinage impactées par la pandémie du Covid-19. Au niveau du Koho, notre plateforme électronique, le GAO, nous sommes en train de l'harmoniser avec ce qu'on appelle le tourniquet. Nous voulons maîtriser, cette fois-ci au moins, les statistiques rentrant dans le cadre de va-et-vient de nos pèlerins. Nous sommes en train d'élaborer un manuel de droits et devoirs des pèlerins, ceux qui vont servir de repère pour mieux réguler les activités du Hajj.
Des propos recueillis par Ali Tajsir Ahmed. Célébration ce jour de la 52e édition de la Journée mondiale de la Terre. À cette occasion, l'Association des jeunes volontaires pour l'environnement a récompensé 3 photos de jeunes qui illustrent les meilleurs gestes écologiques à l'issue d'un concours lancé sur Internet. Le président du JVE, Sanu Ayuba, donne plus de détails sur l'objectif visé à travers cette journée. Il est au micro de Rahil Tsoumana.
Nous avions lancé un concours des meilleurs gestes écolos. Donc, durant 2 semaines, nous avons reçu 30 photos qui ont été sélectionnées par un jury. Et la cérémonie d'aujourd'hui permet de récompenser les 3 meilleures photos pour marquer davantage aussi l'engagement de la jeunesse à la préservation de l'environnement. Parce que la plupart des photos représentent un peu des actes ou des gestes que nous devons continuer à perpétuer au quotidien, tels que les gestes de plantation d'arbres, les gestes de salubrité, les gestes de reboisement, les gestes de protection des arbres, les gestes de protection des dunes ou d'infrastructures liées à la protection des berges. Donc c'est des actions que nous devons perpétuer chaque jour en tant que citoyens pour préserver notre terre, parce que la terre souffre énormément du manque de l'inaction des hommes et nous n'avons pas une autre planète, donc nous n'avons que la planète Terre. Nous devons faire en sorte que la planète puisse continuer à nous nourrir, à nous permettre de mieux respirer. Donc c'est important que lors de cette journée, nous puissions rappeler cela et inviter tout le monde à réduire les actions néfastes liées à la destruction de l'environnement.
À Agadez, la raréfaction des pluies constitue aujourd'hui une véritable préoccupation pour les producteurs et maraîchers. Le conseil régional et ses partenaires cherchent des alternatives à travers la construction des puits pastoraux et le développement de l'arboriculture. Ibrahim Issa, vice-président du conseil régional d'Agadez, explique au micro de Anissé Karim.
Pour l'instant, les gens sont en train de surcreuser les puits, de dépasser les nappes superficielles, mais en réalité, il n'y a pas eu un traitement général. Partout autour de la Garde, toutes les zones de production, nous avons eu à intervenir parce que nous associons la production agricole et l'arboriculture. À chaque fois qu'on accompagne un producteur, on lui creuse un puits, on lui donne 50 pieds d'arbres, plus tout ce qui est semences pour l'accompagner, parce que nous, on est persuadé que l'arboriculture doit être associée à nos cultures. L'arboriculture, c'est la meilleure retraite en réalité, parce qu'on n'aura pas toujours toujours les mêmes forces pour cultiver la terre, alors qu'on aura toujours des forces pour cueillir nos fruits. Donc c'est dans ce sens qu'on associe ces deux choses. C'est aujourd'hui presque 250 puits maraîchers dans la région d'Agadez, 160 puits pastoraux, 25 puits villageois. Donc c'est beaucoup de réalisations. Aujourd'hui, on est très satisfait parce que tout ce qu'on fait a été d'une très grande réussite parce que les entrepreneurs qui les font sont des gens qui sont du coin aussi.
En bref, le gouvernement a prorogé hier l'état d'urgence pour 3 mois à compter du 20 mai dans les départements de Baleyara et Kolo, région de Tillabéri, selon les conclusions du Conseil des ministres publiées sur la télévision nationale. Aussi, l'état d'urgence a été prorogé de 3 mois à compter du 4 mai dans la région de Difa et certains départements de Tawa et Tillabéri. Il s'agit des départements de Tassara et Tilia pour Tawa et les départements de Walam, Ayeru, Bankilare, Abala, Bani Bongou, Saï, Torodi, Tera, Tillabéri et de Gotey, région de Tillabéri, indique la même source. Parlons politique à présent. La coalition des partis non affiliés du Niger a rendu publique une déclaration le mercredi 20 avril. Plusieurs points ont été évoqués, notamment la question de l'installation des bases militaires étrangères au Niger. Pour ces partis, le redéploiement de ces bases étrangères peut entacher la souveraineté du Niger. Le président de la coalition, Adolphe Asagbo, est au micro de Habib Garba.
Nous avons compris que l'installation des forces étrangères dans notre pays nous rend comme si on est membre de l'OTAN. Si vous regardez tous les pays de l'OTAN, leurs bases militaires sont installées au Niger. Il y a les États-Unis qui sont au nord, la France est là, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Donc finalement, nous devenons une base arrière de l'OTAN. Imaginez que la guerre à l'Ukraine se dégénère en guerre mondiale. Comment sera l'attitude des belligérants? Ils vont se dire qu'à partir du Niger, des gens iront les attaquer. La première idée qu'ils auront, c'est de nous attaquer. Nous sommes des pacifistes. Par conséquent, nous ne pouvons pas accepter d'être dans cette situation très dangereuse. C'est pourquoi les partis politiques non affiliés ont dit non à l'installation des bases militaires au Niger.
4 blessés, dont 2 par balle parmi les passagers, c'est le bilan d'une attaque perpétrée hier matin par des individus armés non identifiés à bord de 3 véhicules, tous montés de fusils et mitrailleurs sur un bus de transport ayant quitté Arlita, destination d'Agadez, à environ 50 km de Tchirozérine. C'est selon le commandant du groupement de la gendarmerie d'Agadez. La réaction des 4 militaires à bord du bus et le renfort des éléments militaires en patrouille de la zone ont contraint les assaillants à s'enfuir, a indiqué la source. Toujours en bref, dans les îles du lac Tchad, une quarantaine de combattants présumés de Boko Haram ont été neutralisés par les éléments de la force multinationale mixte FMMM. En milieu de la semaine, a indiqué le bulletin hebdomadaire des opérations des forces armées nigériennes, publié le 20 avril. Le même bulletin ajoute que 11 véhicules, 7 motos et plusieurs vélos ont été détruits lors de ces opérations conjointes menées par les soldats du Niger et du Niger. La suite de ce journal, cette année, pendant le mois de Ramadan, comparativement aux années antérieures, la banque de sang du centre de transfusion sanguine de Zender est suffisamment dotée en poche de sang. C'est grâce aux bonnes volontés, comme les jeunes soldats en fin de formation du centre d'instruction de Zender. Dalé Lebori, responsable du CRTS de Zender, au micro de Ali Keta.
Tout le monde a contribué pour que vraiment cette année qu'on fasse un carême sans problème majeur de sang. Depuis le 5/4/2022, on a commencé donc les prélèvements. On a eu à prélever 1315 éléments. Après la rupture, il y a certains qui reviennent pour qu'on puisse reconstituer le stock. Sinon, les 1315 là finiront avant le carême. Et surtout que cette année, nous avons eu à distribuer ces poches-là au niveau de Matamé, au niveau de Meria, au niveau de Gouré. Et maintenant, nous attendons le temps qui va venir incessamment pour prendre. Malgré ça, ils sont presque autosuffisants avec le MSF. Néanmoins, s'ils ont des besoins également, on va les faire venir.
La gestion de l'équipe nationale de football par la présidence de la République, la rencontre du président de la République avec les acteurs du sport nigérien et la suspension du stade général Seynou Kounché par la CAF sont les points de la déclaration de l'Association des supporters du Niger hier 21 avril. Abdelrazak Rafa est le président de la dite association. Il nous donne des précisions au micro de Hassoumi Grouza.
la gestion des équipes nationales, comme c'est le cas dans beaucoup de pays, quand vous prenez la Côte d'Ivoire, le Sénégal et bien d'autres pays. C'est la présidence directement qui gère les équipes nationales pour ne pas rencontrer beaucoup de problèmes. Voilà pourquoi donc, ces pays avancent normalement. Alors, si la présidence gère, donc ça veut dire qu'il y aura un regard sur la gestion et tous les problèmes seront donc, débattus et les moyens seront mis à la disposition des techniciens pour que vraiment le football sorte de l'ornière. Et par rapport à la suspension du stade, et très bientôt, donc, Inch'Allah, nous allons aborder les compétitions en tant que cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2023. Et à ce niveau aussi, donc, nous avons interpellé le président de la République parce que le stade, comme vous le savez, est suspendu depuis le 5 avril à travers une correspondance adressée à la FENIFOOT. Donc nous l'avons également interpellé pour que vraiment il essaie de voir comment est-ce qu'on peut rouvrir le stade.
À présent, le magazine de ce journal, la cohésion sociale est une valeur recherchée par tous les peuples. Au Niger, le mariage interethnique a permis de renforcer la paix, mais aussi cette cohésion sociale. Il est d'ailleurs à l'origine de la parenté à plaisanterie. Dans ce reportage, Fonte Chamsou relève quelques avantages de ce type de mariage.
Au Niger, on dénombre une dizaine de groupes ethno-linguistiques qui cohabitent paisiblement grâce au mariage interethnique. Il y a encore quelques années, très peu d'ethnies acceptaient les unions mixtes, nous raconte Mme Yazidogo, femme de culture.
À propos du mariage interethnique, avant les gens avaient peur les uns des autres. Et quand ça a commencé, comme nous l'ont dit nos parents, l'entente s'est installée. Ce n'est suivi l'amour et la cohésion sociale. Par exemple, quand des peuples viennent pour une bagarre, on leur dit « Voyez-vous, votre sœur est mariée à un tel et il est canouri. » Alors, il laisse tomber la bagarre.
Le mariage interethnique est un bouclier contre la mésentente entre les différentes ethnies du Niger. Grâce à cela, il est très rare de voir des conflits entre les communautés, explique le sociologue Saniahia Janjouna.
Lorsque on épouse la fille de quelqu'un, on devient automatiquement son fils. Lorsqu'on épouse la fille d'une communauté, c'est comme si on a accepté d'être comme cette communauté. Ce qui équivaut à une certaine forme de rapports sociaux qui permettent une certaine forme d'entente entre les gens. Et c'est ça d'ailleurs qui est même à l'origine de la parenté à plaisanterie.
Zali, une Baadera originaire de l'Ader, région de Tawa, est mariée depuis 27 ans à un Kanouri, originaire de Difa. Elle relève les bienfaits et les avantages que lui apporte son mariage.
Il y a vraiment des avantages dans ce genre de mariage. Je suis restée avec eux. J'ai appris à fabriquer de l'encens et à faire leur couscous, le brabusco, la bouillie de blé, la bouillie de riz accompagnée de lait et toutes sortes de nourritures propres au Kanouri. Tout ça, ce sont des avantages. Et surtout, l'encens. J'en ai fait même mon commerce.
Au Niger, du fait des relations entre des groupes humains socialement et culturellement différents, même s'il surgit des incompréhensions culturelles dans ces couples, elles sont vite balayées par des vannes de la parenté à plaisanterie.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Merci également de votre fidélité au programme de Studio Kalangou. Ne quittez surtout pas, nos programmes se poursuivent avec les journaux en langue nationale. Et à partir de 18h15, le forum de la presse avec Mokhtar Hamadou et nos confrères de la presse de Niamey.
Salut Fanta, une très bonne nouvelle pour toi.
Ouais, raconte, je t'écoute.
Plus de soucis pour écouter les émissions de Studio Kalangou.
Sois clair, Rabi, je veux comprendre.
Il suffit juste de composer le 325 sur ton téléphone pour suivre les émissions de Kalangou. Et ce n'est pas tout. Tu peux également écouter des messages sur la santé et la météo.
Quoi? Et partout au Niger?
Et oui, en plus, l'appel sur le 325 est gratuit. Il faut juste disposer d'une puce RTL.
Oh, merci infiniment.
Le 3, 2, 5 pour suivre les programmes de Studio Kalangou au rythme du Niger.